Alors bonjour, alors c'est aussi Patrick qui a choisi le titre. Je ne ferai pas de commentaire. Donc je vais parler du langage à l'école maternelle et je pense que ça va, ça concerne beaucoup plus que l'école maternelle. Donc je vais essayer de suivre un plan. Patrick sait que je ne suis pas douée du tout pour ça, mais je m'astreins à faire des plans. Donc je vais essayer de parler d'abord, je vais faire une entrée en matière un peu générale sur le langage et poser quelques jalons. Et ensuite je parlerai de la question des ruptures entre le langage de la maison et le langage de l'école. Donc là je vais être dans la continuité avec ce que vient de dire Françoise. Et puis ensuite rentrer plus dans le quotidien de la classe, c'est-à-dire quels sont les enjeux de l'activité langagière à l'école, à quelles conditions, puisque c'était dans le titre. Et ensuite si on a le temps, je montrerai quelques exemples, un peu de corpus d'interaction langagière, maître-élève, en petite section, moyenne section, voilà, si j'ai le temps. Alors, je voulais juste te rappeler que le langage oral est devenu progressivement une priorité dans les programmes, et ça fait pas si longtemps que ça, et qu'en même temps, je vais essayer de montrer que tout ça, c'est très confus, et d'un côté, on dit que le langage oral, c'est très important, mais d'un autre côté, tout ce qui est écrit quasiment dans les programmes, les documents d'accompagnement, ça concerne l'écrit. Alors, quand on parle de langage oral, il y a bien deux dimensions. D'abord, développer le langage propre à chaque enfant. C'est-à-dire que l'enfant qui entre à l'école maternelle à 3 ans, il y a des enfants qui parlent comme nous, comme des livres, hein, comme on dit. Et puis des enfants, on ne comprend pas du tout ce qu'ils nous disent. Ils parlent très peu, ils articulent encore très mal, il y a des confusions importantes. Et donc, il y a de très grandes inégalités entre les enfants qu'ils rentrent à l'école maternelle à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Alors, il y a cette dimension qui est fondamentale parce qu'elle met en jeu le développement de la pensée, les apprentissages scolaires. Mais il y a aussi une autre dimension dans l'apprentissage du langage, c'est le fait que les enfants vont devoir s'acculturer, s'approprier la culture, c'est-à-dire un langage propre à l'école qui permet de... Mais c'est très désagréable ce que tu viens de me dire. Ça revient tout de suite ? Ah d'accord, donc je ne prononce plus de P. Et donc, le langage qui est propre au apprentissage et qui permet, si vous voulez, d'apprendre, de comprendre, de savoir des choses qui relèvent de l'école. Et qui, à l'école maternelle, reste le langage des domaines d'apprentissage, puisqu'on ne parle pas en termes de discipline. Mais enfin, tout ça, ça relève quand même du disciplinaire, puisqu'il y a des mots pour parler mathématiques, des mots pour parler langage, des mots pour parler... motricité ou EPS, etc. Donc c'est bien aussi un langage propre à chaque domaine que l'enfant va devoir comprendre et utiliser très très vite. Et on va voir tout à l'heure à quel point ça peut aller même trop vite. Alors après, sur la question du langage, on voit bien que quand on rentre dans la classe, la question de son enseignement, elle reste très problématique. C'est-à-dire que les enseignants sont très mal à l'aise. Comment on fait pour développer le langage des enfants? Ça ne peut pas être collectivement, son enseignement ne relève pas d'une tâche collective. Donc si ça relève d'ateliers, de petits groupes, ça pose problème, parce qu'en maternelle, que font les autres pendant ce temps-là? Si je fais un atelier de langage, il faut un niveau sonore relativement bas, parce que sinon je n'entends pas ce que me disent les enfants, et encore plus quand ils sont petits parleurs. Et puis reste évidemment la question de son évaluation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on évalue? Et là, je crois qu'on est face à des... On nous apporte des réponses qui ne sont pas à la hauteur des questions. C'est-à-dire que dans les évaluations nationales qui sont proposées pour le langage, en fait, on évalue la langue. C'est-à-dire on essaye d'évaluer un certain nombre d'unités de langue que les enfants devraient maîtriser. Alors, on peut déterminer qu'à 5 ans, tous les enfants devraient employer le mot « mais » ou le mot « parce que ». Ça voudrait dire quoi de leur pensée? Je veux dire, on peut tout à fait argumenter à 5 ans sans utiliser « parce que » ni « mais ». Et on peut utiliser « mais » parce que, et ça ne dit rien de l'activité intellectuelle de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre les mots utilisés par les enfants et les concepts et les notions qu'ils construisent. Et là, évidemment, par rapport à la recherche, il y a un gros problème, parce qu'il y a des recherches qui sont menées depuis très longtemps, qui montrent que pendant toute une première partie de la vie de l'enfant, et ça irait peut-être même jusqu'à la fin du collège, il vaut mieux utiliser des mots génériques pour construire les concepts. Et une fois que le concept est construit, les mots qui sont beaucoup plus spécifiques, particuliers, vont s'approprier naturellement, beaucoup plus facilement. Plutôt que d'amener les enfants dès le début à développer un vocabulaire très précis, qui va empêcher, les enfants manieront des tas de beaux mots, mais derrière, qu'est-ce qu'ils auront construit, on ne le saura pas. Donc ça va masquer cette dimension et ça va donc masquer ce qui se passe au niveau de l'activité intellectuelle. Alors moi, je fais partie d'une équipe qui travaille par exemple sur la construction de la digestion chez les élèves de collège, et on voit bien comment des élèves s'approprient tous les mots qui parlent de la digestion. Et quand on les amène à vraiment expliquer le processus de digestion, il n'y a rien. Et puis, il y a tout un groupe d'élèves qui utilisent le mot truc, tuyau. Alors, il y a le petit tuyau, ça passe dans le gros tuyau, puis après dans un petit tuyau. Et le gamin sait très bien comment fonctionne la digestion, mais il utilise le mot tuyau, qu'il utilise pour toutes les parties. Alors, je ne suis pas très douée sur la digestion, je n'entrerai pas dans les détails, puis ce n'est pas l'heure. Ah, ce n'est pas comme la géographie, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Alors après, on a des types de réponses apportées à l'école maternelle où on nous dit, Alain Bentolila dit, il faut que les enfants apprennent un mot nouveau par jour. Alors moi, je suis acquisitionniste et cette chose-là, elle me laisse sans voix. Parce que tout enfant qui va bien, tout enfant tout venant, il apprend entre 10 et 30 mots nouveaux par jour. Et là, on voudrait qu'il en apprenne un. Alors évidemment, je suis bien d'accord avec cette idée, c'est-à-dire que quand l'enfant apprend 10 à 30 mots nouveaux par jour, on ne sait pas lesquels il apprend. Alors que quand le maître décide d'apprendre tel mot nouveau dans la journée, il sait quel mot est en jeu. Enfin, il ne faudrait quand même pas réduire l'activité langagière des enfants à un mot nouveau par jour, alors qu'ils font beaucoup plus naturellement, si on parle avec eux, s'ils entendent parler. Et puis, il nous dit, Alain Bentolila, ça va combler les écarts. Sauf que si un enfant de 4 ans maîtrise 500 mots le 1er septembre, il va en apprendre un nouveau par jour. À la fin de l'année, il en maîtrisera, alors je ne vais pas compter, mais on va dire 600. Et celui qui en maîtrisait 200, il en maîtrisera peut-être 300. Donc, je ne vois pas en quoi ça va combler les écarts. Donc, ce type de réponse très rapide renvoie à des théories de l'acquisition, alors j'y vais franchement, qui étaient déjà dépassées dans les années 50, hein, type behavioriste, etc. Et c'est terrifiant ce que c'est comme réponse. Hein. Et on est à nouveau du côté de la langue et pas de l'activité langagière. C'est-à-dire, effectivement, les enfants peuvent apprendre des tas de beaux mots et derrière, comment ça les aide à penser? Et est-ce que ça les aide à penser? Et puis, quand on regarde les programmes 2008, alors moi, je suis, comme la plupart d'entre vous, je reste sans voix aussi. Le mot « comprendre », « réfléchir » a quasiment disparu des instructions officielles. Il apparaissait énormément dans les programmes 2002. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Répéter, réciter, mémoriser. Et ça, ça revient tout le temps et dans tous les domaines. Mais répéter, on peut répéter sans rien comprendre. On peut mémoriser sans rien comprendre et réciter sans rien comprendre. Jusqu'à quel âge, nous, ici, on a répété tirer la chevillette et la bobinette, cher rat, sans avoir la moindre idée de ce que ça voulait dire. Mais voyez, ça fait partie des formulettes, des choses qui accrochent, qu'on répète, parce que c'est joli, parce que ça nous plaît, mais on ne comprend rien. Et puis alors après, on nous parle du bain de langage. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé du bain culturel, bon. Est-ce qu'un enfant apprend à parler dans un bain de langage? Ben non. C'est-à-dire qu'on a quand même des études qui datent des années 80 qui montrent que les enfants apprennent à parler parce qu'on parle avec eux et pas parce qu'on les fait parler ni parce qu'ils entendent parler autour d'eux. Vous voyez, là aussi, c'est une réponse qui est complètement inadaptée par rapport à l'âge de l'enfant et par rapport à son activité intellectuelle. Et puis, on met beaucoup l'accent sur communiquer. Et là aussi, je m'interroge, c'est-à-dire, est-ce que les humains auraient inventé une machine aussi infernale que le langage pour communiquer? Ben, je crois pas. C'est-à-dire qu'on peut communiquer de tas d'autres manières qu'avec les mots. Il y a une enquête qui a été faite, qui date de 2005. 70% de la communication dans les milieux familiaux n'est pas assurée par le langage. C'est-à-dire qu'à la maison, on ne parle pas. Donc je ne pense pas que de ramener l'histoire du langage au fait de savoir communiquer soit la bonne réponse non plus. Alors, ce qui est un peu embêtant aussi, c'est que quand on va voir dans le concret, dans les classes qui se passent, on voit que l'activité langagière en tant qu'objet d'enseignement et d'apprentissage a pratiquement disparu. C'est-à-dire que dans tout ce qui relève des rituels du matin à l'école maternelle, qui sont des moments de langage collectif, donc un peu problématique, mais ce sont quand même des moments de langage, on ne vise plus du tout la capacité qu'ont les enfants à réfléchir, on ne leur laisse pas le temps d'émettre des hypothèses, de comprendre, de développer des savoirs. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur l'écrit et on est sur des réponses un peu automatisées. C'est-à-dire les enfants qui ont intégré, un certain type d'enfant a intégré des réponses à produire, qu'il a appris en dehors de l'école. Et ça fonctionne sur ce mode-là. Alors, si on pousse le paradoxe jusqu'au bout, on peut voir que même les lectures d'albums, qui sont l'activité quotidienne, vraiment l'activité noble de l'école maternelle, elles ne donnent plus lieu, ces lectures d'albums, à des activités langagières. Et quand je dis langagière, je dis intellectuelle. C'est-à-dire qu'à l'école maternelle, maintenant, les types de questions qui sont posées aux enfants, donc qui ont entre 3 et 6 ans, correspondent exactement aux questionnaires écrits qu'on va donner aux enfants à l'école élémentaire. Donc, vous voyez, c'est pensé sous la forme de l'écrit. C'est-à-dire qu'on est dans un langage oral totalement scriptural, qui est déjà un langage de l'écrit. Bon, tout ça, je l'ai dit, je savais bien que je n'allais pas suivre le plan. Alors, pour moi, si on parle de langage, les véritables enjeux sont multiples, et notamment assurer le développement de la pensée. Assurer le développement de la pensée à l'école maternelle et après, ça se fait nécessairement dans un mouvement collectif. Mais en même temps, dans ce mouvement collectif, il faut qu'il y ait de la place pour l'émergence de la pensée singulière et propre à chaque enfant. Et c'est bien la chose la plus difficile à faire, et c'est bien une aventure à haut risque. C'est-à-dire que ça sous-entend que chaque enfant ose prendre la parole devant les autres, c'est-à-dire il ne craint pas de dire quelque chose, donc ça veut dire qu'en début d'école maternelle, il y a de la place pour tout ce que les enfants sont capables de dire, y compris des choses totalement en décalage par rapport à ce qu'on est en train de faire. Alors je vais en reparler après du mouvement collectif, mais ça me paraît la dimension fondamentale. Ensuite, il y a comprendre l'école, c'est-à-dire que le langage, c'est le seul moyen qu'on ait d'amener les enfants à comprendre les pratiques de l'école, qui sont très étranges, très exotiques, les outils que l'école met en œuvre et le langage qu'elle utilise, de manière à éviter le plus possible le problème de la connivence culturelle. C'est-à-dire les enfants qui ont déjà les outils en entrant à l'école pour comprendre ce que l'école demande et ceux qui ne les ont pas encore. Et puis apprendre l'école, c'est-à-dire apprendre à dépasser des expériences de la vie quotidienne et construire des savoirs qui vont devenir disciplinaires. Alors vous voyez, c'est pas rien. Ça veut dire que 3 années d'école maternelle, ça n'est pas trop, et bien sûr, ça ne suffit pas. Cette affaire-là, elle n'est pas du tout réglée quand les enfants quittent la grande section. Donc voilà, c'est pour moi, ces dimensions-là, elle traverse l'ensemble de la scolarité des élèves. L'ensemble. Alors, dépasser les expériences de la vie quotidienne, c'est ce qu'on disait en première partie de matinée, c'est-à-dire qu'à l'école, on apprend des choses qui ne servent qu'à l'école, qui ne servent jamais dans la vie de tous les jours. Et la vie quotidienne ne permettra jamais d'apprendre ce qu'à l'école on apprend. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un type d'expérience complètement intellectuelle. On va mettre à distance le monde réel, on n'est plus dans la manipulation d'objets, on est dans la pensée pure et dure. Dans la vie quotidienne, c'est assez rare. Alors là, la question qui, pour moi, est fondamentale et cruciale, c'est la question des ruptures. C'est-à-dire, effectivement, quand l'enfant entre à l'école, il est confronté à une grande quantité de ruptures. Ces ruptures, elles peuvent être fatales. Pour moi, ces ruptures, elles sont totalement nécessaires, c'est-à-dire il est hors de question que l'école abandonne ces ruptures, mais elles doivent être prises en compte, aménagées de manière à ce que tous les enfants puissent entrer dans les nouvelles manières de faire de l'école. Alors les ruptures, elles sont du côté du langage, puisque le langage de la maison n'est pas celui de l'école. Quand on dit à la maison à un enfant « fais un dessin », à l'école et à la maison, ça n'a rien à voir. Ce sont pourtant les mêmes mots, mais on ne fait pas du tout la même chose. Les objets de la maison et les objets de l'école, même s'ils sont identiques, en fait, ne sont pas les mêmes et ils ne font pas l'objet des mêmes pratiques. C'est-à-dire qu'on voit bien des gamins arriver à l'école maternelle, alors parfois c'est en moyenne section ou en grande section, peu importe, ils savent faire du vélo à la maison. Et puis on va leur demander de faire du vélo à l'école et là ils vont tomber. Parce que l'objet on l'appelle toujours vélo, mais ce n'est pas du tout le même objet. C'est-à-dire que le vélo de l'école, en général, les roues sont attachées à la roue avant, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de, voyez, etc., etc. Donc l'enfant qui sait faire du vélo à la maison, il ne sait pas plus faire du vélo à l'école. Et pourtant, c'est le même objet et il porte le même nom. Et puis, il y a aussi la question des ruptures au niveau des pratiques. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, qu'à l'école, on lit des albums. Contrairement à ce qui est dit souvent dans les à la maison, on lit aussi des albums, sauf que ce ne sont pas les mêmes albums et qu'on n'en fait pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'à la maison, toutes les enquêtes montrent que quand les parents ou d'autres gens lisent des albums dans un cadre familial ou quotidien, ils les lisent en incitant l'enfant à parler de lui. C'est-à-dire qu'ils vont montrer un détail sur une image, ils vont lui dire « Ah, tu vois, ce petit garçon, il a un petit manteau rouge exactement comme le tien. » Ou sur cette image « Tiens, il mange à la cantine, toi aussi, tu manges à la cantine. » Et à partir du moment où il va y avoir lecture d'album à l'école, l'école, elle attend des enfants qu'ils ne parlent surtout pas d'eux. C'est-à-dire qu'un enfant qui dit au moment où on lit un album, où on voit un enfant manger à la cantine, « Eh ben moi, je mange à la cantine », on lui demande en fait de parler du personnage qui mange à la cantine. Si dans l'histoire, il y a une grand-mère qui fait un gâteau et que l'enfant dit « Moi aussi, ma mamie, elle me fait des gâteaux », on va le ramener immédiatement vers « Mais là, je ne te parle pas de toi, on parle du personnage ». Donc, vous voyez, l'album, la lecture d'album, c'est une pratique totalement différente à la maison et à l'école. Et ces ruptures, elles sont très difficiles parce que les enfants, évidemment, ils arrivent avec les manières de faire et de dire de la maison et ils ne comprennent plus pourquoi ces manières de dire et de faire à la maison ne fonctionnent plus une fois qu'ils sont dans la classe. Alors, je vais rentrer dans les détails. Ces ruptures, elles sont d'ordre culturel. C'est-à-dire que, par exemple, quand l'école choisit de lire un album tel que « Au bain » de Jeanne Ashby, on voit sur cet album, donc c'est une petite fille, c'est l'heure du bain. Cet album, il est lu dans énormément de classes de petites sections. Et c'est une petite fille qui va prendre son bain, donc elle se déshabille et elle arrive au moment où elle enlève sa culotte. Évidemment, comme souvent, elle met sa culotte sur sa tête, sa maman rigole. Ça y est, le bain est prêt, la maman a mis de la mousse. Il y a les jouets pour jouer dans le bain. La petite fille entre dans l'eau et l'image suivante, on voit la maman entrer dans l'eau avec sa petite. Alors, tout à l'heure, on parlait de violence symbolique et il est évident que cet album, pour l'école, c'est un objet tout à fait banal. C'est-à-dire, c'est tout à fait banal, ça fait partie de notre culture, c'est normal avec tous les guillemets qu'on peut y mettre, de prendre son bain avec son enfant. Par parenthèse, moi si j'avais montré ça à ma grand-mère, elle tombait dans les pommes et elle ne se réveillait pas. Hein. C'est-à-dire que l'idée même de montrer son corps à son enfant, c'était même pas pensable. Et là on voit bien que l'école, elle considère que c'est évident pour un enfant d'entrer dans cette pratique-là, qu'on lui montre et qu'on valorise, et la violence que ça représente pour un certain nombre d'enfants qui ne voient jamais le corps de leur maman et pour qui c'est même pas pensable d'ailleurs de se montrer. Donc, vous voyez, il y a ces ruptures qui sont d'ordre culturel. Alors moi je suis pour continuer à lire le Au bain de Jeanne Ashby. Simplement je pense qu'avant c'est le langage du maître qui négocie et permet ces ruptures. C'est-à-dire que le langage du maître, il permet que coexistent les différentes cultures. Celle de la maison, alors celle au pluriel, parce que autant de maisons, autant de cultures. Il y a la culture populaire, mais il y a aussi la culture familiale. Et la culture de l'école. C'est-à-dire que cette violence symbolique, elle est aménagée par le langage de l'enseignant qui peut dire des choses du type « Je vais lire une histoire qui parle d'une maman qui prend son bain avec sa petite fille ». Il y a des mamans qui le font et des mamans qui ne le font pas. Et voyez, par rapport à tout ce qu'on a dit ce matin, moi ce qui m'intéresse, c'est comment on peut amener les cultures à coexister. Parce que si on demande aux enfants de faire un choix entre la culture de la maison et celle de l'école, on sait qu'on a perdu. Inévitablement, ils choisiront la culture de la maison et ils refuseront d'entrer dans la culture de l'école. Donc, ces ruptures culturelles, elles sont importantes parce que l'école, elle a sa culture, elle choisit des objets culturels. L'école, elle décide de dire que telle œuvre musicale est digne d'être travaillée à l'école, telle œuvre picturale est digne d'être regardée, analysée à l'école, et telle autre ne l'est pas. Donc les ruptures langagières, j'en ai parlé. Et puis, à l'école maternelle, c'est aussi être confronté à des ruptures dans les pratiques. Par exemple, à l'école, on doit attendre son tour pour parler. C'est rarement vrai à la maison. Alors, peut-être si on a des parents enseignants, on doit lever la main à table, mais je ne crois pas que ça arrive. Alors, ces usages et ces pratiques sont totalement inconnus et incompréhensibles en dehors du langage du maître. C'est-à-dire que, vous voyez, quand je parle du langage à l'école maternelle, j'ai plutôt envie d'être du côté du langage du maître. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le maître rend compte de son activité intellectuelle, de ses pratiques culturelles à travers son langage? C'est-à-dire, comment il donne à entendre aux enfants, voilà, dans quelle culture je vous fais entrer, dans quelle pratique je vous fais entrer et comment j'utilise cet objet que vous pouvez connaître en dehors de l'école, mais moi je vais en avoir un usage tout à fait particulier. Et ça, ça ne peut se passer que par les mots de l'enseignant. Alors, je pense que tout à l'heure quelqu'un a dit on est des professionnels et il faut qu'on arrive à parler de ce qu'on fait avec les familles, etc. Et cette dimension, c'est-à-dire ce rapport intellectuel qu'on a nous-mêmes avec ce qu'on fait, il est fondamental et il va apparaître à travers le langage. C'est-à-dire comment on rencontre, notre métier c'est, nous sommes des intellectuels, comment on rencontre de ce travail qu'on fait, comment on le conscientise et comment on en rencontre auprès des enfants. Parce que le problème c'est que les enfants passent leur temps à deviner ce qu'on est, ce qu'on attend d'eux, ce qu'ils doivent faire, ce qu'il faut faire avec tel objet, et pas à être dans la même activité intellectuelle que nous. Parce que deviner, ce n'est pas une activité intellectuelle. Je vais en reparler. Alors, j'ai dit qu'il y avait des objets étranges et particuliers, qu'il y avait des ruptures avec les objets. En général, un enfant de 3 ans, quand il arrive à l'école, il a déjà entendu le mot « colle ». Et il a déjà vu l'objet « colle ». Il se trouve qu'à la maison, souvent, la colle, c'est un stick. C'est même de moins en moins un tube de colle, et que quand il va arriver à l'école, il va voir son maître ou sa maîtresse prendre des bidons de 1 litre ou 3 litres, d'un truc tout blanc ou tout transparent, transvaser ça dans des petits pots qui sont fermés, prendre un pinceau, et il faut bien refermer les petits pots et laver les pinceaux, sinon c'est foutu. Ça s'appelle bien de la colle. On peut savoir coller avec un stick à la maison, et plus du tout savoir coller avec ce genre d'objet qui est propre à l'école. Et puis après, il y a des tas de lieux étranges pour l'enfant. Quand il entre à l'école, il va entendre passer aux toilettes. Il va entendre aller dans les couloirs. Il va entendre aller à la cantine. Il va entendre aller au dortoir. Il va entendre aller en récréation. Vous voyez, tous ces lieux, ils sont aussi nommés et ils sont totalement inconnus de l'enfant. C'est-à-dire qu'on voit un certain nombre d'enfants qui se laissent porter, c'est-à-dire qui se mettent à la fin des rangs et qui se retrouvent un peu par hasard dans la salle de motricité, dans la cantine, dans le dortoir, sans trop savoir ce qu'ils font, et puis par imitation, ils vont faire avec les autres. Mais là, on n'est pas dans une activité langagière, il n'y a pas de pensée. Alors moi, ce qui me frappe aussi, c'est que quand le maître donne un cerceau à un enfant à l'école, il ne fait pas du tout ce que font des parents à la maison s'ils donnent ou ils offrent à leur enfant un cerceau. C'est-à-dire que le maître, il attend, il a des représentations de ce que peut faire cet enfant-là de tel âge, et il va lui demander de faire un certain nombre de choses en fonction des représentations qu'il a de cet enfant de tel âge et de tel sexe. Et il va lui demander, par exemple, de mettre quelque chose à l'intérieur du cerceau. En soi, cette phrase, elle est extrêmement problématique. Mettre quelque chose à l'intérieur d'un cerceau. C'est-à-dire que le cerceau, c'est un jouet à la maison, et ça va devenir un objet pour apprendre quelque chose à l'intérieur, à l'extérieur, dedans, dehors, à l'école. De la même manière, quand le maître demande à un enfant de faire du vélo, il ne va pas féliciter l'enfant parce qu'il sait faire du vélo. Ce n'est pas l'objectif du maître. C'est-à-dire, vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes objectifs d'apprentissage et d'éducation. C'est-à-dire qu'il va lui demander d'aller à droite, à gauche, de traverser telle chose, de garder l'équilibre, et il va évaluer sa capacité à le faire ou pas. Et puis après, dans les pratiques, ce qui me fascine, c'est la quantité de pratiques qui sont totalement étranges, exotiques, comme je disais tout à l'heure, ou opaques pour les enfants. C'est-à-dire, à l'école, on va demander aux enfants d'attendre sur un tapis. Et souvent, à la maison, quand ils restent assis sur un tapis, ils se font gronder, parce que c'est pas propre, etc., etc. Ils vont attendre pour parler, ils vont chanter sur commande. Dans la vie de tous les jours, on chante rarement sur commande. Ils vont répéter tous les jours la même chose. Ils vont manger des choses bizarres, ils vont voir leurs œuvres au mur, c'est-à-dire que les maîtres leur demandent de faire de la peinture, ils peuvent entendre que c'est des gribouillis et que c'est moche, mais là, on va les mettre au mur. Ils vont donner des mauvaises ou des bonnes réponses sans trop savoir pourquoi. Ils vont devoir dire qui n'est pas là tous les matins. C'est très étrange. Ils vont devoir faire pipi devant tout le monde. C'est très étrange. Et ils vont devoir regarder, en ayant l'air le plus passionné possible, des choses totalement inintéressantes, comme des poissons dans un aquarium ou des tortues, comme des livres, ce n'est pas très intéressant en soi, comme de l'eau qui se transforme en glace. Voilà. Et donc les enfants, l'école, elle leur impose cette chose-là dès le premier jour de l'école maternelle. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, hein, mais si on se met du côté de l'enfant, regardez comme tout ça est étrange et bizarre. C'est-à-dire qu'on voit bien comment les enfants passent leur temps à se dire... Alors moi, mon travail, c'est d'aller parler avec eux un par un, de leur demander ce qu'ils font vraiment. Voilà. Et ils disent bien, la maîtresse veut qu'on fasse ça. La maîtresse, elle veut qu'on chante, elle est très contente quand on chante. Voilà. Et donc, l'école, c'est entrer dans des pratiques très étranges, très exotiques, et pour que ça devienne les pratiques de l'enfant, qui les intériorise et qu'il en fasse une activité, ça doit passer par le langage. Quand on demande en fin d'année de petite section, alors moi je l'ai fait à peu près aujourd'hui avec une centaine d'enfants, c'est pas simple, hein, ils ont 3 ans. Pendant un an, ils ont entendu leur maître dire « Vous allez faire de la peinture, tous les jours. » En fin d'année, un par un, je leur demande « Qu'est-ce que c'est pour toi faire de la peinture ?» Il y en a 40% qui répondent « C'est quand on a le droit de jouer à l'eau et au savon. » C'est-à-dire que le moment de la classe, dans la classe maternelle où on a le droit de se laver les mains, sinon c'est dans les toilettes, c'est le moment où on fait de la peinture. Donc, vous voyez le syntagme, tout attaché, faire de la peinture, pour eux ça renvoie à l'expérience, j'ai le droit de me laver les mains dans la classe. Ils ne font pas de la peinture, ils ne sont pas connectés sur la même activité intellectuelle que nous. Il y en a 30% qui disent on est obligé de mettre un truc dégoûtant, c'est-à-dire vous savez les t-shirts ou les chemises, bon. Et seulement 30% qui disent il faut bien écouter ce que demande le maître ou la maîtresse. Si on nous demande de couvrir toute la feuille de peinture bleue et après de faire des points rouges, et bien c'est ça qu'il faut faire. Pendant un an, il y en a 70% qui ont fait autre chose que nous quand on disait faire de la peinture. Et quand en CE2, on demande aux enfants un par un qu'est-ce que c'est pour toi faire de la grammaire, il y en a 40% qui répondent c'est quand on a le droit de changer de couleur de stylo dans le cahier. Et nous, on est sûr qu'ils trouvent des adjectifs, des noms et des verbes. Mais non, ils mettent du rouge, du bleu, du jaune, et c'est génial parce que c'est le seul endroit, le seul moment dans le cahier où on a le droit d'utiliser le stylo rouge ou le stylo vert. Voilà. Donc voyez comment cette chose-là qui fait partie de notre langage le plus courant, parce que c'est notre travail, c'est le langage des apprentissages, pour les enfants, ça dit quelque chose de totalement différent. Alors le problème, c'est que si on n'est pas connecté sur la même activité, on ne travaille pas ensemble. Hein, et donc là, il y a des ruptures et qui sont très problématiques parce que les enfants ne travaillent pas de la même manière que nous. Alors j'ai dit faire de la peinture, faire de la grammaire en cours préparatoire. Ce qui me frappe, c'est quand un maître fait travailler les enfants dans un cahier bleu qui en général, je ne sais pas pourquoi, est le cahier de français. Une fois que les enfants ont fini la dictée ou la copie, souvent le maître dit prenez le cahier rouge. Ça, c'est du langage des apprentissages. Ça vaut pour maintenant, on va faire des maths. Mais les enfants, la plupart des enfants, ils changent seulement de couleur de cahier. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas qu'ils changent de discipline. Une année en moyenne section, j'étais au fond de la classe, je regardais la maîtresse faire. On était en début d'année, moyenne section, et la maîtresse, donc les enfants faisaient des choses en atelier, et elle leur a dit, venez vous asseoir sur le tapis, les enfants, ils s'assoient, et elle leur dit, attention, maintenant je veux voir tous les yeux posés sur moi. Et là, moi, je regarde la tête des enfants, j'adore, et il y en a plein qui se décomposent, parce qu'ils pensent qu'il faut vraiment enlever ses yeux et les poser sur la maîtresse, parce qu'ils ont 4 ans. Il y en a à peu près un tiers qui se dit, on va attendre de voir ce que font les autres. Et puis il y en a tout un petit paquet de 6-7 qui sont morts de rire et qui ont compris que c'était une manière de dire « Taisez-vous, regardez-moi, écoutez bien ce que je veux dire, c'est très important. » Mais voyez, la phrase « Je veux voir poser, les yeux posés sur moi », c'est du langage des apprentissages, mais qui n'est pas du tout partagé par les enfants. Et puis l'autre jour, c'était il y a à peu près, c'était juste avant les vacances de Noël, j'entends une maîtresse de petite section chanter « Pommes de Reinette et pommes d'api ». Et elle arrive à la fin de la chanson, donc les enfants chantaient un peu avec elle. Bon, c'était moyen, mais ils la suivaient. Et donc, elle fait la fin, pomme de Renette et pomme d'api, tapis, tapis, gris. Et là, il y a une pause de une seconde. Alors, on va refaire les ateliers d'hier. Et la manière dont ça a été dit, je me suis dit, c'est comme si c'était toujours dans la chanson. Vous voyez, c'est-à-dire que ça, ça, y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de mots pour dire, bon, maintenant qu'on a fini de chanter, on va faire autre chose. Ce qui est totalement naturel pour nous, ce qui est une évidence qu'on est en train de faire autre chose. Et là, les gamins, il y en a plusieurs qui étaient prêts à apprendre la suite de la chanson. Alors, on va refaire autre chose, vous voyez ? Ou on va refaire les ateliers. Donc, voilà, c'est toutes ces choses-là qui font... Voilà, par rapport auxquelles, nous, on a du recul à prendre, et ce qui est très compliqué, parce que c'est les mots qu'on utilise naturellement, parce que c'est notre métier, et qui ne sont pas du tout évidents pour les enfants. Faut que je regarde l'heure, Patrick ? Tu me fais les gros yeux ? C'est-à-dire, ça va, il me reste combien de temps ? Oh, c'est la Rolls. Alors, des mots pour travailler. Il y a des études qui ont été faites par... Il y a des études magnifiques qui sont faites par les sociologues de l'éducation et qui montrent que les mots pour travailler, plus ils sont précis, mieux ils aident les enfants à entrer dans la même activité intellectuelle que nous et d'entrer et de penser avec nous. Et plus les mots sont flous ou ils sont utilisés pour faire des choses différentes, plus c'est compliqué pour les enfants. Et moi, je suis très frappée par le fait que, par exemple, il y a pas, il y a des mots comme dessiner, tracer, copier, écrire, qui renvoient à des activités totalement différentes ou à des tâches totalement différentes et qui sont souvent employées les uns pour les autres. C'est-à-dire, souvent en maternelle, j'entends « vous allez écrire des boucles ». Or, il se trouve qu'on n'écrit pas des boucles, mais qu'on les trace. Et que quand on utilise le mot « copier », nécessairement, il y a un modèle. Et souvent, les maîtres disent « venez vous asseoir, je vais vous raconter une histoire » alors qu'ils vont la lire. Et on voit bien que les élèves qui n'ont aucune difficulté avec les apprentissages scolaires, dans leur tête, ils différencient totalement lire et raconter. Et si on leur demande juste après l'activité, tu peux expliquer ce qu'a fait ton maître, ils vont très bien dire, il nous a lu une histoire, il a regardé dans le livre, il a lu ce qui était écrit. Et les autres, qui sont plus en difficulté, qui n'ont pas les outils, eh bien, ils confondent totalement ces deux choses. Et donc, du coup, ils pensent que quand le maître lit, il invente l'histoire, il l'a dans sa tête. Il n'y a aucun lien entre ce qui est écrit dans l'album et le langage, les mots qui sortent de la bouche de l'enseignant. Parce que lire et raconter, c'est la même chose. Et vous voyez, tous ces mots des apprentissages, c'est évident qu'il faut qu'ils soient très précis pour qu'on aide les enfants à entrer dans la même activité que nous. Alors, je prends l'exemple qui a été d'une consigne qui a été donnée par une maîtresse en grande section. Je vais vous donner 5 étiquettes. Avec ça, je voudrais que vous écriviez une histoire. Voilà les étiquettes, et elle les montre une par une, et elle dit papillon, fleur, la, le, m. Attention, on ne met pas n'importe comment, il faut que ça fasse une petite histoire avant de coller, vous m'appelez. Donc pour vérifier si c'est bien collé dans le bon ordre. Et regardez, est-ce qu'elle a donné des étiquettes ou est-ce qu'elle a donné des mots ? Est-ce que les enfants vont écrire ? Non, ils vont rien écrire du tout. Hein ? Et attention, ça, il faut que ça fasse une petite histoire. Est-ce que le papillon aime la fleur ? Ça fait une petite histoire. Vous voyez ? Donc, vous voyez comme cette consigne, elle est pensée pour être plus simple pour les enfants, pour les aider à entrer dans l'activité, et empêche, en fait, elle va les empêcher d'entrer dans l'activité. Il va y avoir confusion. Parce que vous voyez, à vouloir simplifier et s'empêcher d'utiliser des mots un peu techniques, eh bien, du coup, on empêche les enfants de comprendre réellement ce qui se passe et ce qu'ils ont à faire et l'enjeu de l'activité. Et alors, du coup, je pense que ça n'est plus une activité, mais ça devient une tâche. C'est-à-dire que les enfants vont coller. Alors, ils vont repérer le copain qui colle souvent dans le bon ordre et ils vont faire comme lui. Mais il ne va pas y avoir vraiment de réflexion sur lecture des étiquettes, essayer de comprendre ce que ça veut dire, etc., etc. Alors, ça, c'est très intéressant parce que moi, je le dis pour la maternelle, mais on voit bien comment c'est souvent le cas aussi après pour l'école élémentaire et le collège. Alors j'ai parlé des pratiques et je voudrais juste dire quelques mots. C'est qu'en fait, souvent l'école reprend des pratiques de l'école maternelle, mais pour en faire autre chose, c'est-à-dire comme prétexte pour amener les enfants à planifier, émettre des hypothèses, réfléchir, comprendre, apprendre. Ce qui me frappe, c'est qu'à l'école maternelle, quasiment dans toutes les classes, tous les maîtres font des gâteaux avec les enfants. C'est une pratique de l'école maternelle. C'est vrai que la plupart des enfants qui entrent à l'école à 3 ans ont déjà vu quelqu'un faire un gâteau, même si ce n'est pas vrai pour tous. La très grande majorité des enfants l'ont fait. Cette pratique, quand c'est une pratique familiale, c'est d'abord une pratique affective. C'est-à-dire qu'en général, quand on fait un gâteau, c'est lié au fait qu'on reçoit des gens, de la famille, des copains, etc., ou bien qu'il y a un anniversaire. C'est-à-dire qu'on se met en quatre à la maison pour faire le meilleur gâteau au chocolat pour l'anniversaire de tonton, pour les amis qui vont arriver, etc., etc. Et quand on reprend cette pratique de faire un gâteau en classe, en fait, c'est un prétexte pour faire du tri de texte, c'est-à-dire repérer les recettes, les séparer d'autres textes, ou bien remettre dans l'ordre les moments pour faire le gâteau, c'est-à-dire le maître ou la maîtresse va faire des photos ou va montrer des images séquentielles, il va falloir les remettre dans l'ordre, ou redire les ingrédients et la quantité qu'on a utilisé pour faire le gâteau. Et on voit bien que les enfants, comme si ce n'est pas accompagné par un langage qui explique qu'en fait, faire un gâteau est un prétexte pour apprendre autre chose, il y a une grande quantité d'enfants qui continuent, eux, à faire un gâteau et uniquement dans l'optique de le bouffer après avec les copains et de le partager. Alors que le maître, lui, en gros, il s'en fout que le gâteau il soit bon ou pas. De toute façon, même s'il est dégueulasse, les enfants vont le manger, non ? Donc en fait, vous voyez, c'est un prétexte pour faire autre chose. Et là, il y a une rupture énorme et il y a des enfants qui ont bien compris que là, ils étaient en train de mesurer, qu'il fallait qu'ils se rappellent pour le lendemain dans quel ordre ils l'avaient fait, parce qu'il y aurait un travail sur une fiche pour en rendre compte, et les autres, ils restent simplement dans le plaisir de faire le gâteau. C'est la même chose quand on joue avec l'eau à la maison et qu'il y a un coin eau à l'école. On laisse rarement les enfants jouer avec l'eau juste pour jouer avec l'eau à l'école. En général, on leur demande de transvaser, remplir, vider, et on utilise tous les mots qui vont avec ce jeu-là, qui n'est plus un jeu. Et après, les enfants vont devoir redire ces mots-là, remplir à moitié, vider à moitié, remplir d'un tiers, transvaser dans un autre récipient, etc. Combien de verres d'eau plein il faut pour remplir tel bol ? Vous voyez, là, le maître, il a des objectifs qu'évidemment les parents n'ont pas. Dessiner un bonhomme à la maison, c'est en général pour mettre, comme on disait ce matin, sur le réfrigérateur, avec un aimant. C'est-à-dire qu'à la maison, les dessins de l'enfant, ils vont là. Quand le maître demande aux enfants de dessiner un bonhomme régulièrement, il a dans l'idée de voir si l'enfant a construit le schéma corporel ou pas. Mais voyez, le problème, c'est qu'on utilise exactement les mêmes mots. Et que l'enfant, il est dans, pour moi, dessiner un bonhomme, voilà ce que ça, à quoi ça réfère. Dans quelque chose qui relève d'une pratique de la maison. Alors, j'ai ajouté cette petite phrase, c'est que le langage de la maison, il s'apprend sans programmation. C'est-à-dire que les parents, ils ne programment pas d'apprendre tel mot à tel âge, tel syntagme à tel âge. Donc ça se fait naturellement, sans apprentissage programmé, sans progression. Alors que le langage de l'école, c'est un langage extrêmement élaboré et qui relève d'un apprentissage programmé. Et on ne va pas utiliser le même langage des apprentissages en petites sections qu'en cours préparatoire à propos de la lecture, par exemple. Et donc, pour moi, ce sont les enseignants qui ont un rôle fondamental pour que les enfants s'approprient le langage et les activités intellectuelles. Je savais que je n'allais pas le respecter. Alors, j'ai annoncé dans l'introduction que pour moi, l'enjeu principal, c'était de penser, de parler penser à l'école et de développer son activité intellectuelle. Ce qui est frappant, c'est que l'école, c'est le lieu où on va construire les discours sur les objets. C'est-à-dire qu'à l'école, ça ne suffit pas de savoir, il faut aussi montrer qu'on sait, c'est-à-dire dire qu'on sait. C'est pas un endroit où on parle, l'école, c'est un endroit où on doit dire. Et on doit même s'approprier des pratiques, comme telles que Pierre Bayard les a décrites dans son livre, c'est-à-dire être capable de parler d'un livre qu'on n'a pas lu. Être capable de parler d'un film qu'on n'a pas lu. Simplement avoir construit les réseaux qui permettent d'émettre des hypothèses et de savoir que tel auteur, il va plutôt parler de tel thème, enrôler tel type de personnage. Et si on n'a pas lu le livre, on est quand même capable de le dire. Vous voyez ? Et donc, c'est mettre à distance ce qu'on fait sur le plan pratique avec le monde. Ah oui, tu as raison, c'est le P de pratique. Ça, je l'ai déjà dit. Alors, comment c'est possible à l'école ? C'est-à-dire, en gros, à quelles conditions ? Moi, je crois que ce matin, on a dit l'école, c'est le seul lieu où les enfants peuvent le faire. Pour moi, l'école, c'est le seul lieu où les enfants peuvent développer une pensée complexe, une pensée qui permet de construire ce rapport intellectualisé au monde, aux objets du monde. Et c'est possible autour de trois axes. Le premier axe, pour moi, c'est l'expertise du maître. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre lieu dans la vie de l'enfant où il est face à un expert des apprentissages. Et évidemment, des apprentissages intellectuels. Le deuxième axe, c'est le groupe classe. C'est-à-dire que le groupe, le fait de faire partie d'un groupe d'enfants de 30 ans, d'à peu près la même classe d'âge, c'est le seul lieu dans la vie de l'enfant où c'est possible. Moi, j'en vois pas d'autre. Et puis, le troisième axe, c'est le rôle du langage. Alors, je vais essayer de le développer. J'ai encore combien de temps ? Très bien. Alors, pourquoi le premier axe, c'est l'expertise du maître ? En fait, c'est l'expertise du maître parce que le maître, bon, on dit dans les documents d'accompagnement que c'est un tuteur de langage. C'est-à-dire, le maître, c'est celui qui est capable de gérer la manière dont il parle aux enfants qui sont là des élèves. C'est-à-dire les reformulations, les différentes manières de dire la même chose, le fait de mettre en récit, de développer le discours des enfants, de développer son propre discours, d'ajouter quelque chose à un discours qui est proposé. C'est-à-dire que le maître est un expert du langage et d'un certain type de langage. Le maître, c'est celui qui va marquer des intonations extrêmement importantes, c'est-à-dire vous utilisez un langage, une manière de dire les choses qui est très particulière, qui n'existe pas dans la vie de l'enfant. Le deuxième axe du langage pour le maître, c'est le fait que le maître assure la fameuse clarté cognitive. C'est-à-dire que le maître, il passe son temps à expliciter sa propre pensée. Voilà comment je pense. Voilà comment je vois les choses, voilà comment je me les dis à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'en fait, le maître, il met sur la table, devant les enfants, sa pensée, son cerveau. Et avec son langage, il est en train de dire, voilà ce qui se passe dans ma tête à moi, voilà comment je vois les choses. Moi, je ne vois pas d'autres moments, et puis en plus, vous voyez, c'est 6 heures par jour, hein, c'est pas rien cette aventure-là, où les adultes mettent sur la table, devant les enfants, leur cerveau. Et puis, le maître, c'est celui qui assure la scolarisation, c'est ce que je viens de développer. Vous voyez, je ne vois pas d'autres adultes avec un tel niveau d'expertise qui sont capables de faire ça avec les enfants et pour les enfants. Et j'ajoute, et c'est très important, pour des enfants aussi jeunes. C'est-à-dire qu'en gros, les enseignants, ce sont des adultes qui ne sont pas dérangés par l'intelligence des enfants. Eh bien, ce n'est pas sûr que dans le reste de la vie quotidienne des enfants, ce soit vrai. C'est-à-dire que l'intelligence des enfants, elle dérange bon nombre d'adultes. Et à l'école, elle ne dérange pas. Alors le deuxième axe, c'est le groupe. Le groupe classe avec le maître. C'est-à-dire que le groupe classe sans le maître, c'est pas possible, ça marche pas. Le groupe classe avec le maître, c'est-à-dire que c'est le seul endroit où il va y avoir des interactions langagières, collectives, duels, des confrontations de points de vue entre des enfants à peu près du même âge que moi. C'est-à-dire que moi, enfant de 4 ans, jusque-là, j'étais sûre que telle chose était vraie. J'étais sûre que c'était comme ça qu'on faisait les bébés, parce que c'est comme ça qu'on l'a dit chez moi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la cigogne qui m'a apporté, c'est comme ça en 2011. Un autre va dire, ben non, moi je suis née dans un chou, mais je sais que les petites filles, elles naissent dans des roses, d'accord ? Et puis un autre qui va dire, ben non, moi on m'a dit que papa c'était l'arrosoir et maman le pot de terre. Et puis il y en a forcément un qui va dire n'importe quoi. Il y a des spermatozoïdes, des ovules, et qui lui sait. Vous voyez, à le savoir scientifique. C'est-à-dire que là, l'enfant, il va entendre des tas de choses qui vont lui permettre de construire sa propre autonomie intellectuelle. Alors que jusque-là, s'il n'est confronté qu'avec une manière de dire qui est celle de la maison, il ne peut pas avoir accès à son autonomie intellectuelle. C'est-à-dire, il pense comme ce qui est dit à la maison ou dans la vie proche, familière, qui est la sienne. Et puis, il va être confronté à différentes pratiques dans le groupe. Et puis, le groupe, ça permet de mutualiser les savoirs, ça permet de mutualiser les expériences, et ça assure l'intériorisation des savoirs, des expériences des autres. Et il n'y a que le groupe classe, avec le maître, qui peut permettre ça. C'est-à-dire, en gros, moi je crois qu'il y a une dérive depuis quelque temps qui est vers le plus d'individualisation des apprentissages, et je crois qu'il faut tenir le collectif, le collectif, le collectif. Parce qu'il n'y a que le collectif qui permet ça. Alors, des moments où les enfants apprennent une chose ou deux avec le maître, seul ou avec deux, trois copains, c'est bien. Mais si ça, il faut en aucun cas que ça prenne le pas sur le collectif. Parce qu'il se passe des choses dans le collectif qui ne se passeront jamais quand on est en tête à tête avec quelqu'un ou avec un petit groupe de 2, 3, 4. Alors le troisième axe, c'est le langage. C'est-à-dire que l'école, c'est bien l'endroit, comme je vous l'ai dit depuis le début, où le langage, ça permet d'aller au-delà de son aptitude à faire les choses, à penser les choses. Vous voyez, quand Vygotsky parlait d'aller au-delà, hein, c'est-à-dire la fameuse zone proximale de développement, c'est-à-dire l'école, c'est le lieu où on va entendre sans arrêt les verbes tels que penser, réfléchir, savoir, comprendre, expliquer, justifier. Ces mots qui rendent compte de l'activité intellectuelle, ils sont sans arrêt prononcés par les enseignants. C'est-à-dire que le gamin, il rentre dans un langage qui construit le rapport distancié au monde. Les questions des maîtres, elles passent leur temps à dire aux enfants « Engage-toi, prends le risque d'une activité intellectuelle. » Et c'est une prise de risque. « Engage-toi dans l'aventure intellectuelle. » Voilà, je suis allée trop vite. Alors, je voulais simplement poser cette question. Expliquer aux enfants, rendre compte de son activité intellectuelle, pour moi, c'est pas... Et poser ces questions intellectuelles, c'est pas évaluer ce que les enfants savent déjà faire, c'est-à-dire une pensée qui serait... Le mot pensée, il n'aime pas. Une pensée qui serait déjà en eux, c'est construire l'activité intellectuelle, la pensée des enfants. Elle ne préexiste pas aux questions que les enseignants posent, aux questions que vous leur posez. C'est-à-dire que quand vous demandez à un enfant « Comment tu le sais ? Qu'est-ce que tu comprends de telle chose ?» il ne l'avait pas pensé tout seul à l'intérieur de lui. Et quand il le dit, vous n'êtes pas en train d'évaluer ce qu'il savait déjà faire, vous êtes en train de construire pour lui et avec lui cette activité intellectuelle. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut trop aider les élèves ? Moi, j'ai ma petite idée, mais pour l'instant, je la garde pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, le langage du maître, c'est une redoutable machine à penser. Une redoutable machine à penser et à se développer. C'est-à-dire que les questions que vous posez, la manière de les poser, les mots que vous utilisez pour apprendre, ils sont un outil intellectuel phénoménal pour les enfants, pour construire leur propre pensée, pour mettre de la cohérence dans les savoirs qu'ils ont construits, qui sont très éparpillés, pour réfléchir et pour douter. Et c'est pas, vous voyez, une simple évaluation. C'est-à-dire, quand on demande à un enfant comment ça se fait dans telle histoire que tel personnage fait telle chose, l'enfant, avant que vous posiez la question, il n'en avait pas la moindre idée et il ne s'était pas posé tout seul la question. Et jusqu'à un âge très très avancé, c'est-à-dire quasiment jusqu'en fin de quatrième, c'est comme ça. Alors, les conditions plus précises. Les conditions plus précises pour moi, c'est... Quand j'ai dit du collectif, c'est du collectif qui va être d'abord pensé sous la forme d'un groupe. C'est-à-dire que pour moi, le mouvement, il n'est pas du collectif au petit groupe, il est du petit groupe au collectif. C'est-à-dire que pour aider les élèves qui sont en difficulté avec le langage, en difficulté avec l'activité intellectuelle, c'est leur permettre, leur donner les outils en amont, en atelier, de manière à ce qu'ils rentrent dans l'activité intellectuelle collective. Plutôt que de le faire à l'inverse, c'est-à-dire de l'assurer collectivement ou là où ils sont complètement perdus parce que les autres moulinent plus vite qu'eux et répondent toujours avant qu'ils aient le temps de réfléchir, et donc ils n'arrivent pas à participer à l'aventure collective. Des ateliers donc un peu réduits en amont de l'activité collective. Et puis, c'est parler avec les enfants, avoir toujours des supports, parce que convoquer l'activité intellectuelle sans support, c'est inenvisageable. C'est-à-dire que moi, je relève le défi. Si on était dans une salle, tout ce groupe-là, et comme ça, sans objet à partager, qu'est-ce qu'on se dirait ? On se dirait sûrement des banalités, mais est-ce qu'on rentrerait dans une activité intellectuelle comme ça ? Ça me paraît extrêmement complexe. Des rituels culturels, c'est-à-dire pour moi, ça relève du rituel dans le sens où c'est pas une aventure qui arrive occasionnellement. C'est l'aventure quotidienne de la classe, c'est-à-dire quelque chose qui arrive en gros toujours à la même heure, dans les mêmes conditions, pour que les enfants retrouvent du même et des appuis et puissent être rassurés sur l'aventure intellectuelle et prennent des risques. et puis construire des scénarios d'expérience qui sont des scénarios intellectuels. C'est-à-dire comment on rend compte de telles choses qu'on a fait ensemble uniquement avec les mots, sans dessiner, sans fabriquer, sans être dans le lieu en question. Donc ça peut être un compte-rendu, ça peut être... Mais voyez, ça passe plus que par le langage. Alors que l'école maternelle, elle a tendance à proposer systématiquement d'être dans les lieux, de la manipulation d'objets, de repasser par les dessins. Vous voyez, elle s'appuie toujours sur un objet pour construire l'activité intellectuelle. Je vais essayer de conclure avec un petit bout de corpus. Là, j'ai juste 5 minutes. C'est formidable. Alors, je vous montre. Des enfants de petite section sont allés visiter, alors ça s'appelle un parc animalier. La maîtresse, elle a une idée en tête. Là, elle s'assoit. Donc, les gamins sont revenus. Ils sont allés la veille. Ils arrivent le matin. Et elle a fait l'appel comme tous les jours. Et d'un seul coup, elle dit, sans prévenir, hein, où est-ce qu'on a été? Qu'est-ce qu'on a fait? Et là, il y a Kevin qui répond tout de suite, on a été voir les animaux. Donc, Kevin, il est sur, je rends compte de ce que j'ai vu et de ce qu'on a vraiment fait. C'est-à-dire, voyez dans quel sens il prend le mot « faire ». La maîtresse, elle lui dit où? C'est-à-dire, elle valide pas quel type d'animaux tu as vu, qu'est-ce qu'on a fait avec les animaux. Elle déplace Sarah dans le bois. Nicolas, on n'a pas été. Et regardez ce que dit Mathieu, l'autruche, sa mort. Donc Mathieu, lui, ce qu'il garde comme souvenir de cette expérience, en gros, soit il s'est fait bouffer par l'autruche, soit les gens ont passé leur temps, les adultes, à dire « Attention, ne vous approchez pas, l'autruche, sa mort. » Et ça l'a totalement terrifié. Ça, il s'en rappelle bien, l'autruche, sa mort. Et regardez, la maîtresse, on a été dans le bois, donc elle fait rien avec l'autruche, sa mort, oui, mais dites-moi, c'est loin. Et en fait, elle fait son travail de maîtresse, c'est-à-dire ce qu'elle attend d'eux, c'est le récit canonique, le compte-rendu, et elle attendrait d'eux qu'ils disent « on est monté dans le car, on s'est assis, peut-être même qu'il y a un enfant qui a vomi, parce que c'est toujours comme ça dans les voyages en car, on est descendu du car, il y a un monsieur qui est venu nous chercher », c'est-à-dire ils rendent compte de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils relatent les faits du début jusqu'à la fin. Un récit. Mais les enfants, ils ne l'ont jamais appris ailleurs. C'est-à-dire, vous voyez, à la maison, on ne va pas faire ce récit. Si on est allé voir un spectacle de cirque, quand on va le raconter à quelqu'un de la famille, on ne va pas redire tout ce qu'on a fait depuis le début. On va parler du spectacle. Alors, mais dites-moi, c'est loin. Et là, Élie, il y avait un porc. Mais alors, ça devait sentir très mauvais. Il fait une grimace. La maîtresse, elle n'entend pas. Elle dit, comment est-on? Et là, Audrey, elle lui sauve la vie. Elle a compris, en gros, son métier d'élève. En quart. Donc la maîtresse, elle regarde Audrey, elle lui dit « Alors Audrey, Audrey, on y a été en quart. Maîtresse, on y est allé en quart, oui. Et qu'est-ce qu'on a fait ?» Et Mathieu se dit « Puisque tout à l'heure j'ai dit un truc qui n'a pas été, là Audrey, elle a marqué 10 000 points. » Et il redit en quart, sauf que là c'est beaucoup trop tard, la maîtresse, elle attend maintenant autre chose. Et donc elle ne l'entend pas et elle lui dit « Qu'est-ce qu'on a fait en arrivant ?» Et voyez comment le récit, c'est une pratique scolaire, le récit d'une aventure, d'une expérience qui n'a pas été scolarisée, c'est-à-dire que là, les enfants ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux, ils sont perdus. Et pourtant, ils ont bien vu des animaux. Et pourtant, oui, l'autruche s'est mort. Et pourtant, oui, il y avait un porc et certainement, ça sentait très mauvais. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. C'est bien que je m'arrête là? Un petit? Alors, un petit qui se passe juste avant, au début du mois de décembre, Noël, moyenne section. La maîtresse arrive le matin et elle pose un sapin de Noël. Alors, je ne vous dis pas ce que c'est. Et donc, les gamins découvrent ça et ils disent à plusieurs, alors Clément attaque, c'est un sapin de Noël, c'est un sapin de Noël. Alors ça, ça a l'air de rien, sauf que le gamin, il est en train de montrer cette activité intellectuelle qui est la plus importante des humains, c'est-à-dire je reconnais quelque chose et je sais le nommer. Et Alexandre, lui, il va plus loin. Il dit, mais ce n'est pas un vrai. Hein. Donc lui, Alexandre, il est en train de dire... Il y en a des vrais, des sapins de Noël, et il y en a qu'on appelle sapins de Noël, mais ça n'est pas des vrais. Il a 4 ans. Hein. La maîtresse, ah, c'est pas un vrai, alors, Gabriel, il y a des petits nœuds, il y a des petits paquets, donc Gabriel, activité intellectuelle, il décrit ce qu'il voit sur le sapin. Marc, il enchaîne, oui, mais dedans les petits paquets, il y a des dragées. Donc Marc, il est en train de nous dire, moi, il n'y a pas longtemps dans ma vie à moi, j'ai vu des petits paquets qui ressemblent à ça, alors ça devait être un baptême, un mariage, et je sais que dans les petits paquets, il y a des dragées. C'est hallucinant, hein, ils ont 4 ans. Hein. Donc il reconnaît et il est en train de dire, voilà ce que je sais avec mon expérience d'enfant de 4 ans de ces petits paquets. La maîtresse, à quoi ça peut servir? Regardez le à quoi ça peut servir, ça peut porter sur les paquets, les dragées, le sapin. Et c'est compliqué, hein, le ça. Marc. Non, mais attends, à quoi tu veux que ça serve d'autre? On est d'accord, hein, à Noël. Et on n'en parle plus, l'affaire, elle est pliée. Ce truc, ça sert à Noël. La maîtresse. Mais quoi encore? Alors, il va falloir que vous trouviez. Et voyez comment là, ils reconnaissaient et maintenant, ils vont devoir deviner. Il va falloir que vous trouviez. Marc. Il carbure. Ben, on le mettra dehors parce que c'est comme ça, hein, ces machins-là, on les met dehors. La maîtresse. Chut, il faut que vous trouviez. Que vous trouviez pourquoi est-ce qu'on a apporté ce sapin dans la classe, comment on va l'utiliser. Regardez comment le « on » est fatal. Le « on a apporté ce sapin, pourquoi ?» Alors là, je ne sais même pas si moi je saurais répondre à cette question. Et le « on va l'utiliser », ce n'est pas le même « on », certainement. Clément, là, il aide beaucoup la maîtresse. Il se dit « je vais l'aider parce qu'on n'y arrive pas ». Alors avec une voix incroyable, il dit « ben, quand ce sera Noël, hein, pour décorer la classe, quand ça sera Noël ». Lui, il sait que ces trucs-là, ça sert à décorer. Donc c'est pour ça qu'on l'a apporté et c'est à ça que ça va servir. La maîtresse, elle craque un peu. S'il te plaît Clément, je voudrais que tu lèves la main pour prendre la parole et ensuite que tu laisses un peu réfléchir les copains. Et là, elle fait un truc qu'on fait tous, hein, d'accord? Alors Justin, qu'on n'a pas entendu en se disant, Justin, il va faire avancer la séance. Justin, les paquets, je crois que c'est pour servir de numéro. Cette activité intellectuelle, elle est hallucinante, ils ont 4 ans. Les paquets, c'est pour servir de numéro. La maîtresse, les paquets, ça sert de numéro. Tu as vu des numéros sur ce sapin, Marc? Ben oui, parce qu'en dessous des paquets, il y a des numéros. Ça cogite. Stéphane, c'est un sapin de Noël pour dire combien il y a de choses dans les petits paquets. C'est hallucinant, 4 ans. Et vous voyez, ils arrêtent, avec cet objet qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient pas ce que la maîtresse va en faire, ils réfléchissent et ils essayent de trouver une réponse, mais une réponse d'une très très intelligente, hein. Stéphane, il va un peu plus loin, il se dit, c'est un sapin de Noël pour dire combien il y a de choses dans les petits paquets. Pas mal. Donc là, la boucle est bouclée. La maîtresse, non. Ça va être pour dire, vous voyez, c'est comme un calendrier. Ce calendrier-là, est-ce que vous savez son nom? C'est ça qu'elle a dans la tête depuis le début. Elle veut que les élèves disent le nom de ce calendrier qui est très spécial. Eh bien, Clément, bah, c'est un calendrier de Noël. Plusieurs enfants... Bah, c'est le calendrier de Noël, hein, puisque voilà, ça ressemble à un sapin, c'est Noël, donc il s'appelle comme ça. La maîtresse, il a un nom particulier, il s'appelle le calendrier de, et là les gosses, ils n'en peuvent plus, Noël, alors en hurlant. L'Avent. Le calendrier de l'Avent, ce sont les jours qui sont avant Noël. Et voyez, pour un enfant qui n'a pas construit les mots, et qui ne sait de toute façon pas ce que c'est le calendrier de l'Avent, pour lui, le premier avant et le deuxième, c'est le même mot, il entend avant. D'accord, vous avez tous un calendrier comme ça à la maison. Et il y a des petits paquets pour quoi faire. Et Alexandre, il sait que quand il y a des petits paquets, on fait quoi? À ouvrir. Margot, j'ai pas un calendrier à la maison. La maîtresse, à l'intérieur, effectivement. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des petits paquets qu'on ouvre? Il y a une surprise, dit Thomas. Et Marc, quand il y a une surprise, faut pas le dire. Maxence, c'est moi qui vais commencer. Et là, ça se termine très très mal. Alors, vous voyez ce qui est frappant? C'est que là... On voit bien comment la maîtresse avait son idée et qu'elle ne l'a pas explicité, elle ne l'a pas mis sur la table avec son langage dès le début, parce qu'après tout, le nom du calendrier en soi, elle peut le demander, puis si les enfants ne le savent pas, ce n'est pas très grave, ils ont 4 ans. En revanche, ils ont été en parallèle, ils ont travaillé en parallèle, c'est-à-dire qu'elle est passée à côté de l'activité intellectuelle phénoménale qu'ont menée ces gamins de 4 ans. Parce qu'elle avait son objectif, mais il était resté que dans sa tête à elle. Elle ne l'a pas déballé. J'arrête là ? Alors, c'est un moment très rapide, hein. Ça dure 2-3 minutes dans une classe. Et la classe, c'est beaucoup de moments comme ça. Et de temps en temps, comme disait l'autre, des petits moments de bonheur.